Année 2025, une bonne santé, mais surtout que vous puissiez vivre profondément l'espérance dont nous allons parler tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, fasse luire, vous connaissez ce passage, et bien qu'il puisse vous éclairer, vous donner sa lumière, sa paix de la réconciliation avec Dieu, qu'il vous donne aussi la joie du salut. Voilà ce que je vous souhaite pour 2025. Alors, faut que j'aille. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Je ne sais pas si on va tout voir. J'en profite pour commencer par prier, le temps que mon vieil ordinateur se réveille. Seigneur, je suis là devant toi, nous sommes tous ensemble devant toi, nous sommes là pour écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Aide-moi, Seigneur, à être un canal de ta parole, un canal vraiment. Je me confie en toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce ce matin. Et je te remets vraiment ce temps particulier que nous allons vivre ensemble. Alors, tout s'allume en même temps, ça va pas. Ça va venir. Du moins, je l'espère. Je l'espère. J'ai l'espoir que ça va venir. J'ai cette espérance que ça va marcher. Ah, ben ça va. Alors, c'est l'exercice auquel je vais me prêter ce matin, grâce à Michael, est un exercice que je fais très peu. C'est-à-dire faire des prédications thématiques. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance. L'espérance, Michael a découpé en quatre sessions. Et aujourd'hui, je vais principalement me concentrer sur que produit l'espérance et comment vivre l'espérance ici-bas. Mais l'espérance, c'est un sujet extrêmement vaste. Et moi, je vais me focaliser sur ce qu'on appelle en théologie l'espérance chrétienne. Hein? Donc, ce n'est pas l'espérance, n'importe quelle espérance, c'est l'espérance chrétienne. L'espoir fait vivre, tant qu'il y a de la vie, il y a. Et Aristote disait, l'espoir est le rêve de l'homme éveillé. Tous ces dictons, et on pourrait en multiplier, en trouver d'autres, ces dictons montrent l'importance de l'espoir ou de l'espérance comme une force mentale et émotionnelle essentielle. Peut-on se passer d'espérance? Peut-on se passer d'espérance? Imaginez attendre une offre d'emploi, comme notre sœur Jessica tout à l'heure. Une offre d'emploi dont on a vraiment besoin. Ou ressentir la perte d'un être cher. Bien que différentes, ces expériences partagent la même aspiration à une vie meilleure. L'angoisse de la mort est une peur profonde et persistante due à l'inévitabilité de la mort et l'inconnu de ce qui suit. Cela peut entraîner la peur, la tristesse, la dépression et l'anxiété généralisée. Et c'est ce que j'ai vécu, moi, à l'âge de 20 ans, où un de mes camarades est décédé à l'âge, oui, au même âge, 20 ans, même pas, 18 ans, on avait, c'était la période du bac. Je vivais dans la terreur, l'angoisse de la mort. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, cette expérience. Alors, pour atténuer ces angoisses, la société propose des techniques d'adaptation qui visent à rester ancré dans le présent ou alors à s'étourdir de plaisir ou de je ne sais quoi jusqu'à la mort. Certains, je ne sais pas si vous connaissez celui dont je vais donner le nom, si je vous parle d'un temps que les moins de 60 ans ne connaissent pas ou ne peuvent pas connaître. Vous connaissez Michel Polnareff? Qui connaît Michel Polnareff? Moins de 60 ans, hein, c'est ça. Et qui disait, on ira tous au paradis, même moi, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira, qu'on ait fait le bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal, on ira tous au paradis. Est-ce que quelqu'un peut nous le chanter? Au paradis, exactement, c'est ça. Hein, vous connaissez ces paroles, hein? L'espérance est une croyance durable en un avenir meilleur, souvent soutenue par des convictions spirituelles ou même philosophiques. Ça, c'est général, hein, c'est pas propre à l'espérance chrétienne. Et les spécialistes ont constaté qu'elle renforce notre capacité à faire face aux défis. Elle nous aide à surmonter les difficultés et améliore notre santé mentale, donnant ainsi un sens à notre existence. Et l'espérance occupe bien entendu une place importante dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, les termes hébreux utilisés sont yakal et kava, qui veulent dire attendre. Et kava veut dire, yakal veut dire attendre, et kava veut dire attendre, mais attendre avec une tension, avec une certaine tension. L'espérance biblique est donc liée à l'attente de Dieu, même lorsque les circonstances n'offrent aucune lueur d'espoir. Et dans le Nouveau Testament, le mot grec « elpis » décrit cette espérance fondée sur la résurrection de Jésus. Ah, ça marche ? Oui, ça marche. Alors nous allons voir que l'espérance chrétienne est un moteur puissant. Comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est un moteur puissant. D'abord, on va le définir. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne ? Il faut quand même bien qu'on... Parce qu'on en parle souvent, on croit qu'on sait. C'est ce qu'on disait avec Michael la semaine dernière. On se dit, ben, finalement... On pense que tout le monde sait ce que c'est, et finalement, on constate que ce n'est pas si vrai que ça. Donc ça vaut le coup, quand même, de reprendre la définition de l'espérance chrétienne. Et puis je pense qu'à nous trois, nous allons prêcher sur 4 semaines, on va compléter, je ne vais pas être exhaustif ce matin, j'espère que nos prédications, nos enseignements vont compléter, d'éclairer ce qu'est l'espérance. Donc on va dire, qu'est-ce que l'espérance chrétienne ? Et bien sûr, je vais répondre aux 2 questions que Michael nous a posées. Que produit l'espérance chrétienne et comment vivre l'espérance chrétienne ici-bas ? D'abord, qu'est-ce que l'espérance chrétienne ? Michel Polnareff a-t-il raison ? Peut-on faire confiance en ses paroles, à votre avis ? Quels sont les gages de crédibilité que Michel Polnareff nous donne ? Bah, je sais pas, moi j'en vois pas beaucoup, hein. Surtout quand, enfin j'en vois pas beaucoup, mais je sais pas, peut-être que vous en voyez. Et je trouve que ces paroles relèvent plus de l'optimisme, hein, que de l'espérance. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais quels sont les gages de crédibilité de l'espérance chrétienne ? Il faut aussi se poser la question. Enfin moi, vous savez, c'est un sujet difficile, donc je l'ai abordé pas à pas. Donc je vais peut-être aller trop lentement pour vous, mais moi je l'ai abordé pas à pas. D'abord, bah oui, quels sont les gages de crédibilité de l'espérance chrétienne ? Alors, on va commencer à essayer de trouver une réponse à cette question. Nous avons vu que l'espérance chrétienne est liée à l'attente de Dieu. Cela suppose que nous le connaissions. Vous êtes d'accord avec moi ? Si j'attends Dieu, il faut quand même que je le connaisse d'une façon ou d'une autre. Or, ce que nous connaissons de Dieu vient d'abord de ce que Dieu lui-même nous a révélé par sa parole, la Bible. Écrite par des hommes, mais inspirée par Dieu. Elle est d'ailleurs, pour nous tous chrétiens, la norme ultime de vérité pour la foi et la vie chrétienne. D'accord ? Bon, cela dit, est-ce suffisant pour y mettre notre confiance ? Je vais aller progressivement. Notre espérance repose donc sur un Dieu, c'est ce qu'on voit dans la Bible, hein, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Notre espérance, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le-moi, hein, notre espérance repose donc sur un Dieu d'amour, créateur, tout-puissant, fidèle à ses promesses et cela a son importance, mais aussi sur un Dieu juste, qui ne laisse pas le mal impuni. On va faire un petit credo, là. Hein. Nous croyons en un Dieu éternel, créateur, transcendant. Nous croyons que Dieu est souverain, et, alors j'ai mis les références bibliques, hein, nous croyons que Dieu est souverain et maintient sa création par sa parole toute puissante, donnant vie et existence à chaque créature. C'est une formule un peu théologique, j'en conviens, mais c'est la définition. en croyant que Dieu a instauré un ordre naturel dans la création, maintenu par son œuvre providentielle. Et c'est ce que j'appelle ordre naturel, eh bien, c'est tout simplement ce que les physiciens, les chimistes, les mathématiciens constatent quand ils examinent, quand ils regardent, quand ils observent la nature. C'est l'ordre naturel. Mais nous croyons aussi que Dieu est intervenu dans le cours de l'histoire par des événements ou des phénomènes qui sortent du cours naturel des choses. Je pense au miracle, la résurrection de Jésus, et on peut en rajouter d'autres, la traversée de la mer Rouge, enfin, je ne sais pas. Et nous croyons aussi en un monde spirituel invisible, inaccessible à notre perception. Vous êtes d'accord avec cela ? Hein ? Vous êtes d'accord ? Continuons avec Hébreux 9, versets 27 à 28. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors c'est un peu énigmatique, mais je vais essayer de vous donner quelques indications pour comprendre ce passage, mais on ne va pas le décortiquer à fond. C'est juste une façon de recentrer notre discussion sur Jésus-Christ et pour dire que l'espérance chrétienne est fondée sur une personne, Jésus-Christ. C'est très important. C'est le cœur de l'espérance. Tous les humains ont péché et sont séparés de Dieu. Vous êtes d'accord ? Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver le monde par amour pour l'humanité. Je ne développe pas. Le salut en Jésus-Christ repose sur la repentance de ses péchés et la foi en sa mort et sa résurrection. Chaque homme est libre d'accepter ou de rejeter ce salut. Jésus-Christ offre une nouvelle vie marquée par la grâce et l'amour divin. Et par cette foi, nous recevons la vie éternelle et devenons enfants de Dieu. Vous êtes d'accord ? Là, je survole extrêmement rapidement. C'est presque supersonique. Ce texte d'Hébreux 9 montre que l'espérance chrétienne est aussi fondée sur une personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ est un personnage historiquement connu qui, selon des témoins contemporains, juifs ou païens, a donné des enseignements avec autorité et il a fait des miracles extraordinaires qui confirment son message. Plus encore, il est mort et ressuscité. En tant que Messie, sa venue était annoncée par les prophètes plusieurs siècles auparavant. À tout cela, ça commence à donner des gages de crédibilité. Mais est-ce suffisant ? L'espérance chrétienne n'est pas seulement une croyance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Paul souligne en Romains 5, 5 que l'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, est une réalité profondément vécue par les croyants. Vous êtes d'accord ? Vous le vivez-vous ? Cet amour assure que Dieu nous accepte et nous aime inconditionnellement. Paul dira aussi en Romains 8, 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'amour de Dieu est une expérience personnelle et intime, ressenti dans nos cœurs grâce au Saint-Esprit. Est-ce que vous vivez ces choses ? Finalement, l'espérance chrétienne est authentifiée par les trois personnes de la Trinité, Dieu le Père, le Créateur, source de toutes choses, et source de la vie et l'autorité. Dieu le Fils, le Rédempteur et le Sauveur, révélant Dieu et offrant la réconciliation à travers sa mort et sa résurrection. Et enfin, Dieu le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Avocat, le Guide, qui sanctifie le croyant et manifeste la présence divine en eux. L'espérance chrétienne va bien au-delà de l'optimisme de Michel Polnareff, qui manque de crédibilité comparé à Dieu. Dieu a fait des promesses dans la Bible, dont certaines se sont réalisées de manière fidèle, comme la venue du Messie, Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus, image du Dieu invisible, sa vie, ses miracles, sa mort et sa résurrection, confirmée par de nombreux témoins, sont des preuves éclatantes de la fidélité de Dieu à ses promesses. Il sera donc fidèle à la vie éternelle, à la promesse qu'il nous a faite de la vie éternelle, nous serons en sa présence pour l'éternité. Là où il n'y a plus de larmes, plus de pleurs, et donc plus de mouchoirs. L'expérience du Saint-Esprit vécue par les chrétiens du monde entier est un autre gage d'authenticité. Ajoutons à cela la providence divine, les réponses aux prières et même, malheureusement, les persécutions que subissent un chrétien sur sept à travers le monde, conformément à ce que Jésus avait annoncé il y a 2000 ans. Maintenant que les gages de confiance sont établis, il est temps de conclure ce premier point par une courte définition de l'expérience, de l'espérance chrétienne. Alors, je vais donner deux parties. Les principes généraux, d'une part, et la vie après la mort, après. L'espérance chrétienne attend la délivrance de l'humanité et de l'univers, du mal et de la mort. Et c'est profondément ancré dans nos cœurs, ce désir de restauration, de délivrance du mal et de la mort. L'espérance chrétienne est une assurance certaine fondée sur les promesses et la toute-puissance du Dieu trinitaire. Mon espérance est en toi, ô Dieu. Psaume 39, verset 7. L'espérance chrétienne, c'est choisir de compter sur une personne, Jésus, et non sur nos circonstances. L'espérance chrétienne se concentre sur la vie éternelle et le retour de Christ qui jugera les vivants et les morts. Est-ce clair? Bon, j'ai dit des choses qu'on sait déjà, hein, mais maintenant voyons ce qui se passe après la mort. Là, c'est un peu plus délicat. Que se passe-t-il après la mort? Alors là, j'ai utilisé un résumé du cours de M. Sylvain Romerovski sur l'Apocalypse. Donc j'ai résumé, donc ça risque d'être un peu dense. Mais voilà, en tous les cas, ce qu'on peut dire sur la vie après la mort. Alors bien sûr, pour développer tout ça, il faudrait une autre prédication, il faudrait même presque une étude biblique pour développer tout ça. Mais on va quand même essayer de comprendre ce qui se passe après la mort. Après la mort, les croyants conscients et reposés de leur souffrance entrent dans la présence du Christ, dans un état dit intermédiaire. Ça, c'est un terme théologique. Un temps d'attente et de purification, et participent au règne de Christ. Ah, tiens. Donc, si je prends ce premier point, il y a la mort physique, mais en fait, il y a une continuité sous une autre forme, hein, ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Alors, est-ce l'âme, est-ce l'esprit, je ne sais pas, mais il y a un état intermédiaire. Puisque l'homme n'est pas uniquement un animal composé d'un corps, mais il a aussi ce qu'on appelle l'âme. En tous les cas, le corps a disparu, et l'âme est visiblement rentre dans la présence du Christ. Notre espérance après la mort, ce n'est pas la mort. C'est d'entrer dans la présence du Christ. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Cet état temporaire, en attendant la résurrection finale, est l'établissement du royaume de Dieu, avec de nouveaux cieux, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Non, cet état est temporaire, en attendant donc la résurrection finale. Donc lorsque Jésus va revenir, les corps vont ressusciter et nous retrouverons notre intégrité totale, c'est-à-dire nous aurons un corps et une âme. Voilà ce que dit le cours de M. Romerovski, résumé en quelques phrases, un peu dense. Est-ce que c'est clair pour vous sur ce qui nous attend après la mort? Est-ce que ça change quelque chose pour vous de savoir ça? Eh bien, on va voir. Bon, on a vraiment survolé rapidement beaucoup de choses. On a survolé la foi chrétienne, nous avons survolé l'espérance chrétienne. Maintenant, on va quand même se focaliser sur les questions. J'ai traîné autant que j'ai pu, mais que produit l'espérance? Que produit l'espérance? Bon, l'espérance chrétienne donne un sens à la vie. En effet, la finalité de notre vie n'est pas sur cette terre où nous ne sommes que de passage. L'espérance de la vie éternelle change radicalement nos priorités, nos choix et la direction de notre vie. Elle donne un sens, une perspective éternelle à la vie présente, au point que les choses terrestres deviennent fades en comparaison. Si effectivement mon espérance, c'est la tombe et plus rien après, je ne vais pas vivre de la même façon que si je crois à l'éternité, n'est-ce pas? Si mon espérance est de mourir et puis après on n'en parle plus, eh ben, je vais essayer d'en profiter au maximum. C'est ce qu'on pourrait faire. C'est ce que font la plupart des gens. Égoïstement, je vais satisfaire mes plaisirs. Donc mes choix de vie, mes priorités vont aller dans un sens. Si à l'inverse, ma perspective est éternelle, si je pense qu'il y a une vie après la mort et que je vais vivre dans la présence de Christ, alors mes priorités, mes choix, mon comportement sera différent. Ensuite, face à l'angoisse existentielle, l'espérance d'une perspective éternelle procure la paix intérieure et la joie du salut par la puissance du Saint-Esprit. On va lire Romains 15, 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ce sentiment de confiance en l'avenir qui nous fait attendre avec sérénité et certitude ce à quoi l'on aspire, procure la paix et la joie. Et après, ma petite expérience que j'ai partagée avec vous tout à l'heure, eh bien, il s'avère où j'étais dans l'angoisse de la mort, j'ai rencontré le Seigneur, et tout a changé. La paix de savoir que nous ne sommes, la fin n'est pas la tombe, mais que nous allons vivre éternellement, c'est fantastique. La joie du salut, d'être sauvé, d'avoir été réconcilié avec Dieu alors qu'on était des coquins et des vilains. Hein? La paix et la joie du salut. Est-ce que vous expérimentez ça? Est-ce que vous avez cette paix, cette joie intérieure, même quand ça va mal? Ensuite, c'est ce que j'avais dit en introduction, même les non-croyants le disent, mais l'espérance chrétienne rend patient dans l'affliction et résilient. Voyons deux passages du Nouveau Testament qui vont dans ce sens. D'abord 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. Je crois que celui-là m'était imposé, je ne m'en rappelle plus. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent, parfois qui nous pèsent, hein Jessica ? Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Un autre passage, dans Romains 5, versets 2 à 4, c'est aussi par son intermédiaire, donc Jésus-Christ, que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve l'espérance. D'une certaine façon, l'espérance produit la résilience qui à son tour produit de l'espérance. C'est un cercle bienheureux. L'espérance de prendre part à la gloire de Dieu nous rend persévérants et résilients, forts et endurants, patients dans l'épreuve. Elle nous aide à voir les épreuves, et je le dis vraiment sur le bout des lèvres, parce que ce n'est pas facile, comme des occasions de croissance spirituelle, de renouvellement de notre être intérieur. Je le dis avec émotion, mais c'est cela en réalité, nous le savons. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les spécialistes de la résilience le confirment, puisqu'ils prétendent eux-mêmes que l'espérance renforce notre capacité à affronter les défis avec courage et détermination et à rebondir face aux épreuves. Bon, l'image est assez parlante, on ne la voit pas bien. J'ai vu, il y a quelques jours, je faisais du ski de rando, et j'ai vu un skieur qui il manquait une jambe et qui skiait vraiment très bien. Je me dis, voilà, il y en a qui ont su rebondir. Ensuite, l'espérance chrétienne influence positivement nos choix et comportements. Lisons Romains 8, 29. Alors, je sais que j'ai cité beaucoup de versets. Hein, mais... Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ce verset nous dit qu'à la résurrection, nous serons semblables à Christ. Nous serons semblables à Christ. C'est notre espérance d'être semblables à Christ, qui est saint, parfait. Nous passerons de la médiocrité à la sainteté. L'espérance de la conformité à l'image de Christ. L'espérance de la conformité à l'image de Christ influence positivement nos comportements. Alors je crois que Michael va parler là-dessus, non ? Tu parles de ça un petit peu, non ? Oui. Bon, je ne vais pas trop, détailler, mais je voudrais juste mentionner que cette espérance de la vie éternelle nourrit nos aspirations, nos actions, notre sens moral. Comme je disais tout à l'heure, si ma seule espérance c'est de buvons, mangeons, demain nous mourrons, ben, c'est ce que je vais faire. Je vais boire, manger égoïstement et de tirer un maximum de plaisir. Et je ne serai pas satisfait parce qu'on le sait très bien que c'est un vide. On aura beau faire tout ce qu'on désire faire, pour avoir tout ce qu'on voudrait avoir, on ne sera jamais satisfait. Mais si mon espérance est d'être semblable à Christ, eh bien je vais changer mes comportements. Mes priorités vont changer. Je vais essayer dès maintenant d'essayer de me conformer autant que je peux, avec l'aide du Saint-Esprit, à ressembler à Christ. C'est ce qu'on appelle la sanctification, n'est-ce pas ? Tout est lié. Ensuite, j'ai pris deux autres points que j'ai voulu souligner parce que j'ai plutôt parlé aujourd'hui de l'individu, d'une espérance sur le plan individuel. Et c'est peut-être un peu ce qui manque dans cette prédication. Donc je voulais juste un petit peu rééquilibrer tout cela en disant que l'espérance des uns inspire, encourage les autres et crée une atmosphère positive. Si vous êtes qu'avec des gens négatifs, le moral plonge. Mais si vous avez une espérance joyeuse, que vous la partagez, eh bien, elle encourage les autres aussi. Elle crée une atmosphère positive. Plus généralement, l'espérance collective renforce l'unité de l'Église. Eh oui. Quand on va avec un groupe de marcheurs, on dit on va aller sur la croix de Beldon, on y va tous ensemble, on s'entraide dans les passages difficiles, surtout la dernière petite côte. Et voilà, tous ensemble, on a un objectif. Eh bien, quand on a la même espérance, on est unis pour atteindre cet objectif. Donc nous venons de voir ensemble ce que produit l'espérance. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais je pense qu'il faut le garder en tête. Premièrement, l'espérance donne un sens à la vie. Ah oui. L'espérance procure la paix et la joie. Et puis, l'espérance rend patient dans l'affliction, résilient, fort, endurant face à l'épreuve. Et on a vu pourquoi. Parce qu'on voit les épreuves comme des moyens de croissance. Et puis l'espérance influence positivement nos choix et comportements, puisque notre espérance, c'est d'être conforme à Jésus-Christ. Donc nos choix, nos comportements vont changer. Bon, maintenant qu'on a dit tout cela, comment vivre l'espérance ici-bas ? Voilà la partie un peu applicative. Eh bien, ce troisième point il dépend, bien entendu, du précédent. Je vous propose une première règle de vie qui s'inspire de Colossiens 3, 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc la première règle qui découle naturellement de l'influence positive que l'espérance chrétienne peut donner à notre vie, c'est de maintenir une perspective éternelle. Maintenir une perspective éternelle. Alors, on maintient souvent une perspective court terme, n'est-ce pas ? Moi, le premier, hein. Je n'ai pas de leçon à vous donner. Hein. Là, je suis pareil que vous. Hein. Parfois, peut-être même pire. Lorsqu'on marche, bon, moi, j'ai tendance à regarder mes pieds. Bon, ce n'est pas une bonne idée. Parce que si vous avez un obstacle sur la route, vous allez vous casser la figure. Donc, il faut mieux, quand on marche, il vaut mieux regarder un peu plus loin. N'est-ce pas ? Les spécialistes de la course à pied, que je ne fais plus, mais spécialistes de la course à pied disent que si tu veux gagner du temps pour faire un marathon, regarde loin devant, lève la tête et regarde devant et tu gagneras 3 à 4 minutes à ton marathon. Bon, ça j'ai jamais expérimenté et je ne le ferai jamais. Et bien de même, si vous regardez qu'à la vie présente, vous allez parfois vous décourager. L'attente dont il était question tout à l'heure, j'avais dans l'Ancien Testament, Yakal et Gava, c'est une attente de Dieu, même lorsque les circonstances ne sont pas favorables. Donc, si vous regardez qu'à la vie présente, qu'aux circonstances, malheureuses souvent, vous risquez de passer à côté des bénéfices de notre espérance chrétienne. La deuxième règle, vous la connaissez bien sûr, le but c'est de rester au bénéfice des promesses divines et donc de l'espérance chrétienne. Elle s'inspire de 1 Corinthiens 15, 58. « Ainsi, mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Paul exhorte ici les croyants à rester inébranlables, c'est-à-dire constants et solides dans leur foi, résilients dans l'épreuve, comme on l'a vu, patients dans l'affliction. Cette deuxième règle consiste à persévérer dans la foi. C'est une évidence. C'est vraiment une évidence. Mais ça vaut le coup de le rappeler. Persévérer dans la foi, c'est aussi persévérer dans le service pour Dieu, sachant que le travail pour le Seigneur a une valeur éternelle et sera récompensé. Persévérer dans la foi signifie aussi rester vigilant, prêt en tout temps pour le retour de Christ. Jésus nous enseigne à rester vigilant face à ce que Paul, face au lion rugissant, Satan, qui veut détruire cette espérance. Il faut savoir, on a dit, on croit en un monde invisible, croyez-le, c'est très important. Ne le négligez pas, Satan veut détruire votre foi et votre espérance. Soyons vigilants. Ensuite, la troisième règle découle du fait que, comme nous l'avons vu, l'espérance procure la paix et la joie par le Saint-Esprit. Or, cette règle s'inspire de 1 Thessaloniciens 5, 16 et 18. Ça m'a toujours fait bizarre. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Pas simple, hein ? Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alors, il s'agit donc de garder la joie et de persévérer dans la piété. En effet, l'espérance chrétienne, eh bien, elle se nourrit. Elle se nourrit, bien entendu, de la prière, c'est ce que nous dit ce passage, mais pas que, de la méditation, de la Bible, des Écritures. Mais aussi, on en parlait tout à l'heure dans le couloir, de la vie communautaire. Elle se nourrit de ces trois choses. On ne peut pas... Voilà, si vous voulez faire grandir votre espérance, eh bien, il faut passer, malheureusement, pas que votre espérance, mais notre foi, il faut malheureusement s'imposer une certaine discipline par la prière, la méditation des Écritures et la vie en communauté. La quatrième règle résulte du fait que l'espérance chrétienne influence positivement nos choix et comportements. Nos choix ne sont plus motivés par la convoitise, du moins je l'espère, la jalousie, le matérialisme, le pouvoir, mais se conforme chaque jour davantage aux valeurs du royaume de Dieu dans lequel nous vivrons pour l'éternité. En se rappelant que Dieu produit en nous le vouloir et le faire, la quatrième règle consiste donc à se conformer aux valeurs de l'Évangile. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Je pense que d'autres vont développer ce thème. Il y a certainement beaucoup de points que je n'ai pas abordé, soit parce que je ne les ai pas vus, soit parce que j'en ai quand même sélectionné. Mais j'espère que mes frères vont compléter tout cela. Pour conclure, nous avons vu en introduction l'importance de l'espérance pour la santé mentale face à l'angoisse existentielle. Au premier point, nous avons vu ensemble que l'espérance chrétienne est fiable, car elle se fonde sur les révélations et les promesses du Dieu trinitaire, toujours fidèle à ses promesses. Mais l'espérance se construit aussi sur nos expériences quotidiennes avec Dieu, comme la présence divine rendue manifeste par le Saint-Esprit en nous. Nous avons vu que l'espérance chrétienne peut se résumer en deux parties. Je les reprends. Premièrement, les principes principaux. L'espérance chrétienne attend la délivrance de l'humanité et de l'univers, du mal et de la mort. Oui, moi je l'attends. Je ne sais pas vous, mais moi, j'attends cette délivrance. L'espérance chrétienne est une assurance certaine fondée sur les promesses et la toute-puissance du Dieu trinitaire. Mon espérance est en toi, ô Dieu. L'espérance chrétienne, c'est choisir de compter sur une personne, Jésus-Christ, et non sur nos circonstances. L'espérance chrétienne se concentre sur la vie éternelle et le retour de Christ, qui jugera les vivants et les morts. Deuxièmement, on a vu, l'espérance chrétienne répond aux questions existentielles, et en particulier de qu'est-ce qui se passe après la mort. Après la mort, les croyants conscients et reposés de leurs souffrances entrent dans la présence du Christ, sans corps physique, mais dans un état dit intermédiaire, d'attente et de purification, et participent au règne de Christ. Imaginez. Cet état est temporaire en attendant la résurrection finale et l'établissement du royaume de Dieu, avec de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem, et le retour de Christ, évidemment. Les corps ressuscités seront incorruptibles et glorieux. Il y a donc continuité de la vie après la mort sous une forme différente jusqu'au retour de Christ et la résurrection des corps. Nous serons alors semblables à Christ. Ensuite, au deuxième point, nous avons vu en quoi l'espérance chrétienne est un moteur puissant. L'espérance donne un sens à la vie. L'espérance procure paix et joie. Elle rend patient dans l'affliction, résilient, fort et endurant face à l'épreuve, que nous ne considérons pas non comme un aléa, seulement comme un aléa de la vie, comme quelque chose qui... une tuile, mais que nous voyons maintenant sous le regard de la croissance spirituelle. J'aime pas trop, c'est pas un sujet que j'aimerais développer, mais c'est la réalité, la Bible en parle très souvent. L'espérance influence positivement nos choix et comportements, parce que nous serons semblables à Christ, et c'est notre objectif, cela devient le sens de notre vie. Enfin, troisième point que j'ai pas résumé tout à l'heure, mais je vais le résumer maintenant. Je vous propose quatre règles de vie ici-bas, découle de ce que produit l'espérance chrétienne. La première, c'est de maintenir une perspective. Alors, est-ce que c'est ça ? Maintenir une perspective éternelle. En gardant les yeux fixés sur les promesses éternelles de Dieu plutôt que sur les circonstances temporaires. La deuxième, c'est persévérer dans la foi et rester vigilant, en acceptant les épreuves comme des occasions de croissance spirituelle et de renforcement de l'espérance. Garder la joie que procure l'espérance chrétienne et persévérer dans la piété, c'est-à-dire nourrir notre espérance de la part de la prière, la méditation des Écritures et la vie en communauté. Se conformer aux valeurs de l'Évangile ou du royaume de Dieu, tout en se rappelant que l'espérance est ancrée dans l'amour de Dieu. À la question, peut-on se passer d'espérance ? Qu'en pensez-vous ? Vous avez 4 heures, je reviens dans 4 heures chercher les copies. Non. Qu'en pensez-vous ? Peut-on se passer d'espérance ? Chacun a sa réponse. J'espère que la réponse est non. Ben, si ce n'est pas le cas, on pourra en discuter après. J'ai terminé ici. Sois loué, Seigneur, pour ton amour qui fait de nous des membres du royaume de Dieu. Sois loué, Seigneur, pour ta fiabilité, ta toute-puissance, ta souveraineté, ta justice. Merci pour la vie éternelle en ta présence où nous serons semblables à Christ. Merci pour cette espérance éternelle qui donne un sens à notre vie, qui nous donne la paix et la joie, qui nous rend résilients et qui nous aide à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Aide-nous, Seigneur, chaque jour à garder une perspective éternelle, à persévérer dans la foi, à garder la joie du salut et à nous conformer aux valeurs du royaume de Dieu. Amen.